La scène, vous pouvez tout de suite ouvrir avec moi l'évangile de Matthieu, merci beaucoup. Évangile de Matthieu au chapitre 26 et au verset 26. Ce matin, j'ai eu à cœur, comme j'avais fait une communication la semaine dernière au sujet de la scène, je vous avais annoncé, je vous avais dit la semaine dernière que prochainement je reconsidérerai avec vous cette base biblique, ce fondement théologique. Et je me suis dit, ben pourquoi pas, allez, pendant qu'on parle de ça, aujourd'hui je fais une petite pause sur la question de la restauration, on continuera la semaine prochaine. Le temps que ça peut permettre aussi à chacun de digérer un petit peu les différents messages, et les différentes facettes. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va faire ce message spécifique qui appartient réellement à ce qu'on appelle les bases bibliques, les fondements de la foi, des fondements doctrinaux, des fondements théologiques, mais que vous soyez nouveau, que vous soyez jeune dans votre foi ici ou que vous soyez là depuis longtemps. De toute façon, ça fait toujours du bien régulièrement de revisiter les bases, d'aller en dessous de l'édifice et de vérifier la qualité des fondements. C'est évidemment bien sûr quelque chose que normalement chaque serviteur de Dieu est appelé à faire un peu partout. Hein. Ça vous concerne pas plus vous que d'autres églises. Partout nous sommes appelés à reconsidérer ces choses régulièrement parce qu'il faut absolument, bien aimé, nous assurer que nous avons bien compris la valeur spirituelle de la scène et que nous restons toujours connectés à la dimension spirituelle de ce que nous faisons. Il n'y a rien de pire pour tuer la foi que la routine. Et malheureusement, notre vie, notre organisation, tout dans notre vie régulièrement est fait de routine d'action répétitive. Et c'est ce qui nous amène régulièrement, pour éviter des pièges, des dérives, à revisiter des fondements doctrinaux ou des bases bibliques, appelez ça comme vous voulez. Le PowerPoint s'est affiché, j'ai la main, c'est fantastique. On lit Matthieu chapitre 26, verset 26. Ce texte, ce récit, évidemment, se situe le soir de la Pâque. C'est la dernière Pâque pour Jésus avant la crucifixion, avant le don, l'offrande de sa vie. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples. Regardez bien, faites attention, hein. Chaque mot est important. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Et vous pouvez venir avec moi aussi une deuxième lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. Première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 26. Paul ici déclare « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». C'est que le Seigneur Jésus, alors là certainement, il est probable à 99%, déjà vu l'ordre de rédaction des épîtres et des évangiles, c'est pas toujours évident à déterminer, mais que l'épître aux Corinthiens ait été rédigé avant un ou plusieurs évangiles synoptiques. Ce qui fait que l'apôtre Paul n'avait pas encore l'évangile. Si un évangile avait été rédigé, peut-être un, de toute façon, il n'avait pas entre ses mains. C'est pour ça que Paul dit, et il insiste sur le fait que ce qu'il dit aux Corinthiens, il en a une révélation directe du Seigneur. C'est pas une formule de style. Il a une révélation directe du Seigneur à ce sujet. Révélation qui sera confirmée ensuite par la connaissance d'un évangile et la rédaction des deux autres évangiles. Ça fait trois évangiles synoptiques. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc là, il y a toute son autorité apostolique qui appuie cette déclaration. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Il y a évidemment d'autres textes que je vous laisserai le soin de considérer si vous le désirez, concernant l'origine et la forme de la scène. Nos textes toujours de référence sont Matthieu 26, Marc 14, Luc 22, 1 Corinthiens 11 que nous venons de lire. La scène, vous l'avez compris, est ce qu'on appelle la scène, mais en réalité vous allez voir que même le mot scène n'est même pas dans la Bible, mais il faut bien la désigner, on est bien d'accord. Le repas du Seigneur, dit Paul, il l'appelle aussi la table du Seigneur. Ce moment particulier est institué par Jésus. C'est la veille de Pâques et c'est juste avant sa crucifixion. Et c'est un moment charnière parce que pour Jésus, c'est la fin de cette ancienne première alliance et c'est le début de la nouvelle alliance en son sang. C'est pour Jésus un moment charnière où il n'y aura plus de célébration de Pâques, en tout cas même si le peuple juif le fait, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, mais dans la pensée néo-testamentaire, il n'y a plus de célébration de la Pâque. Jésus a accompli la dernière Pâque, il est l'accomplissement de tous les sacrifices, il est l'accomplissement de toutes les prophéties, et il va le faire une fois pour toutes. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de Pâques, c'est la dernière, et dans ce moment-là, qui est un moment charnière, transitoire, on passe à l'institution de ce mémorial, de cette table du Seigneur, de ce repas du Seigneur, de ce pain et de ce... Qu'est-ce qu'il y a dans la coupe ? Les textes ne le disent pas de toute façon. Et évidemment, dans ce moment-là, on passe à l'institution de cette scène qui, on le sait, annonce le sacrifice ultime, parfait, une fois pour toutes. Jésus, le souverain sacrificateur parfait, va accomplir le sacrifice parfait une fois pour toutes. Et ces éléments que nous prenons, ce moment que nous appelons scène, nous rappellent le sacrifice substitutif, parfait et suffisant de Jésus. Ces éléments, ce mémorial, se prend sous la forme de deux éléments. Le pain, ça c'est clair, alors évidemment, le Seigneur, ni Paul n'a pas précisé, est-ce que c'était du pain de campagne, du pain de seigle, est-ce que c'était du pain aux céréales, est-ce que c'était du pain blanc? Il n'a rien précisé là-dessus. Et on sait que c'était du pain, et ensuite le Seigneur est clair, l'apôtre Paul est clair, il parle du fruit de la vigne, mais ne va pas aller plus loin que ça. Et je voudrais tout de suite insister, frères et sœurs, sur cet élément, sur ce qui est dit dans les textes, fruit de la vigne, et puis je vais vous montrer un petit peu plus tard, malheureusement, quelles peuvent être les différentes dérives auxquelles les uns et les autres nous sommes parfois exposés sans nous en rendre compte, au sujet du fruit de la vigne, au sujet du pain et bien d'autres choses encore, parce qu'il n'y a pas que ça en termes de risque de dérive. Les éléments dont il est question ici, c'est pour ça que nous insistons tout de suite, les éléments ne sont que des symboles. Ce sont des symboles. Ils n'ont aucune valeur, d'après la pensée biblique, ils n'ont aucune valeur en eux-mêmes. Ils n'ont aucune valeur intrinsèque. Le mot oinos, le mot vin, oinos en grec, ne figure dans aucun de ces textes. Jamais le mot oinos, qui signifie vin en grec, n'est mentionné, absolument jamais, vous pourrez vérifier. Et puisqu'évidemment, il n'y a pas de précision sur la nature et la composition du pain et du fruit de la vigne, les éléments, nous le comprenons, ne sont que des symboles, rien de plus. Sinon, Et c'est là que je vais vous montrer quelques dérives existantes. Sinon, ce mémorial, cette table, ce repas, cette scène, là par contre on peut mettre le mot qu'on veut, va devenir, risque de revenir un rituel, mais plutôt un rituel, c'est pas une histoire d'habitude seulement, mais c'est rituel au sens de superstition, un rituel superstitieux et idolâtre. Ce qui compte, bien aimé, ce n'est pas l'élément, le symbole, ce qui est important, c'est la réalité qui est décrite, la réalité qui est rappelée par le symbole, la signification de la scène. Ça nous amène à la signification de la scène. La scène est un mémorial. Jésus dit bien, faites ceci en mémoire de moi. Donc tout nous recentre sur Christ, sur sa personne, sur son œuvre, sur qui il est, sur ce qu'il a fait. Et on trouve ici, Luc 22, 19, très simplement la réponse à finalement pourquoi le Seigneur a-t-il institué ce repas. Mais tout simplement parce que l'homme est oublieux par nature. L'homme, l'être humain, hein, je sais bien que moi en tant qu'homme masculin, je suis beaucoup plus oublieux que mon épouse. Mais là, on ne parle pas d'homme ou de femme, on est d'accord. Hein. Là, on parle de homme et femme, on parle de l'être humain. L'homme, l'être humain, est oublieux par nature. Et le Seigneur a voulu, au travers de ce moment, que les disciples, on insistera aussi sur ce point tout à l'heure, que les disciples soient ramenés à la pensée de Christ, à sa personne et à son œuvre. Jésus veut, dans ce moment que nous partageons, il veut que nous recentrions nos cœurs et nos pensées sur lui, sur sa nature, sur qui il est, et aussi sur son œuvre, c'est-à-dire sur ce qu'il a fait. Nous nous centrons sur la grandeur de son amour, mais nous nous centrons aussi sur la valeur, l'efficacité de ce sacrifice qui, on le répète, est suffisant, volontaire et qui est unique. Le disciple se recentre à ce moment-là. Il n'a pas besoin de ce moment-là pour le faire. Je peux le faire à n'importe quel moment, mais c'est un moment propice, histoire que, parce qu'il y a bien des moments où ce que Jésus est et ce que Jésus a fait, dans la semaine, dans les jours qui s'enchaînent, etc. Et il semblerait que le Seigneur ait établi ceci un petit peu comme barrière salutaire, par moment, pour nous dire « Ah, papa, il faut vraiment que tu penses à t'arrêter, il faut que tu recentres sur moi. Et ce que j'ai sous mes yeux, le pain et le fruit de la vigne que je consomme, sont là pour m'obliger à me recentrer et à réfléchir. L'homme est oublieux par nature. » Alors, évidemment, ce qui va être extrêmement important, c'est la signification profonde de la scène. Et ces éléments... Est-ce qu'il me manque quelque chose ? Excusez-moi. Non, c'est bon, c'est ça. Ces éléments nous rappellent que Jésus a été brisé pour nos péchés. Ce pain qui est rompu me rappelle de façon allégorique, me rappelle que le corps de Jésus a été brisé, déchiré, littéralement déchiqueté par le fouet, non pas des bourreaux romains qui n'étaient juste que la main humaine pour cette exécution infâme, mais déchiré par le fouet de mes péchés, de mes fautes, de mes transgressions. Et ce pain brisé me rappelle que le corps, la chair de Jésus a éclaté sous le coup de ces bourreaux, de ces lanières immenses sur lesquelles on fixait des morceaux de métal pour être sûr que lorsque l'on frappe son dos, la chair éclate quand on retire le fouet. 39 coups moins un. Et quand je vois ça, je ne peux pas oublier que Jésus a subi ça à cause de mon péché, à cause de moi. C'est pas les Romains, c'est pas les Juifs, c'est pas la foule, c'est moi. C'était pour moi, c'était pour toi. Et parce que je suis tellement oublieux, je me laisse tellement prendre par des choses qui n'en valent pas la peine, et Jésus le savait, alors il a institué ce moment. Et il a dit, il faudra que régulièrement, tu recentres ton cœur et tes pensées sur moi. Tu vas devoir comprendre la valeur de mon sacrifice. Tu vas comprendre qui je suis. Tu vas voir mon regard d'amour et tu vas comprendre à quel point je t'ai aimé quand il n'y avait plus rien d'aimable en toi. Et tu vas comprendre que mon sacrifice
Je l'ai fait, cette abomination, c'était abject, que ce plan éternel, où comme dit Pierre, l'agneau était sacrifié avant la fondation du monde, dans la pensée du Père, du Fils et de l'Esprit, le Dieu trinitaire. Jésus dit, personne ne prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne prend ma vie. L'ordre que j'ai reçu de mon Père, c'est le pouvoir de la donner ou de la reprendre. Mais personne ne prendra ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Et le Seigneur m'amène à recentrer mon cœur. Et je vois dans cette abomination qu'est la croix, cette souffrance que Jésus endure, une souffrance spirituelle, morale et physique, tridimensionnelle, une souffrance spirituelle, morale et physique. Je vois là, sur cette abomination qui tombe sur lui, je vois la juste colère de Dieu qui est en train de déchaîner toute sa haine, il est en train de déverser sur son fils la haine qu'il ressent pour mon péché. Dieu, pour le péché, est plein de haine. Il a ça en horreur, c'est abject, c'est une aversion. C'est un affront à sa personne, un affront à sa sainteté. Et Dieu laisse libre cours au flot de sa colère qui s'abat sur Jésus, qui est le paratonnerre entre Dieu et nous. Et alors, à ce moment-là, que cette colère s'abat, je vois non seulement la version profonde, la haine que Dieu a pour le péché, mais je vois l'amour, la compassion qu'il a pour ma vie pécheresse. Et je vois à la croix, quand je prends ce pain et ce fruit de la vigne, je vois à la croix, je comprends, je me remémore, je vois cette scène et je comprends à quel point Dieu est saint. Je n'ai pas à jouer avec le péché. Mais je comprends aussi à quel point il est amour et jusqu'où il était prêt à aller pour que je sois sauvé, arraché de cette horreur qu'est le péché, qui détruisait mon cœur, ma vie, mon éternité, mon présent, mes relations, tout. Et je le vois agonisant sur la croix, disant « Pardonne à Stéphane, Père, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait pour effacer mon péché. » Et après j'entends les apôtres, les uns après les autres, dans les épîtres, me montrer que par la puissance de son sang pur et innocent, parce qu'il est, venu, il plaide, il intercède, il présente à Dieu non plus le sang des centaines de milliers d'animaux qui ont été sacrifiés pendant des siècles, mais il vient présenter son propre sang, et son sang à lui ne couvre pas mon péché, son sang efface mon péché. Il me regarde, il me dit, tu es libre, il ne subsiste plus rien. J'ai accompli la prophétie d'Ésaïe, quand bien même vos péchés seraient rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige, parce qu'il ne subsistera plus rien. Dans l'ancienne alliance, les péchés étaient simplement couverts. Les péchés étaient toujours là, ils étaient toujours présents. Et avec un sacrifice animal, on mettait simplement une couverture dessus, en attendant que... Mais le péché était là, il n'était pas condamné, il n'était pas jugé, il n'était pas détruit, il n'était pas vaincu, il était simplement couvert. Et Dieu, dans son immense patience, voyant les sacrifices de l'Ancien Testament qu'il avait lui-même ordonné, le Seigneur, dans son immense patience, c'est comme s'il, parce que le sang des animaux disait, sois patient, sois patient, sois patient, la solution ultime arrive, bientôt tu vas envoyer le Sauveur, le Libérateur promis, bientôt tu effaceras nos péchés, sois patient encore cette année. Et le sous-Christ, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint, il présentait le sang, et c'est comme s'il disait, sois patient encore cette année, et l'année suivante, sois patient encore cette année, et l'année suivante, sois patient encore cette année. Et au moment où Jésus, avant d'expirer, s'écrit, tout est accompli, le voile du temple se déchire du haut jusqu'en bas. Lui, le souverain sacrificateur, parfait, offre sa propre vie en sacrifice parfait. Tous les péchés de l'Ancien Testament sont effacés aussi et pardonnés. Et nos péchés à nous sont effacés. Il ne subsiste, si tu t'es repenti comme on a entendu dans le don spirituel, il ne subsiste contre toi plus rien, plus rien, plus rien. Et puis ce sacrifice me rappelle aussi que je suis libre. Le péché est effacé, mais les chaînes de mon péché... Les liens qui m'écrasaient sont enfin brisés. Je suis libre et les épîtres montrent, ce serait l'objet de toute une étude, que nous sommes libérés, libérés de la puissance du péché, libérés de la puissance de la mort, libérés de la puissance de la loi qui nous maintenait enfermés et qui excitait le péché en nous, libres du joug, de l'esclavage, de Satan sur nos vies, etc. Cette scène, ce mémorial, ce repas, cette table, vous l'appellerez comme vous voulez, me dit que Jésus a remporté. Si vous ne dites pas amen, je presse jusqu'à 15 heures. Jésus, attention, vous avez 3 secondes, préparez-vous. Jésus a remporté une victoire totale et définitive sur le péché, le séjour des morts et la mort.
Ah, bonjour, bienvenue, ça fait plaisir. Je suis content que vous soyez arrivés.
Par ces éléments, j'insiste aussi sur ce point, nous confessons aussi, bien-aimés, nous annonçons, nous proclamons, nous confessons notre propre engagement. Jésus, effectivement, à la croix, est tout entier à moi, tout entier à toi. Mais aussi, je confesse aussi mon propre engagement envers lui. L'offrande de ma vie, je suis en communion avec lui. Je me suis pas seulement repenti, je me suis donné, je me suis offert à lui. 1 Corinthiens 10, 16, je suis par le pain et par cette coupe, je suis en communion au corps de Christ et je suis en communion au sang de Christ. Je lui appartiens et quand je prends ce pain et ce fruit de la vigne, dans mon cœur, je lui renouvelle aussi mon propre engagement. L'offrande de ma vie, le don de ma vie, l'offrande de mon cœur, ma propre consécration. Et puis, nous avons aussi, frères bien-aimés, frères et sœurs, pardon, nous avons cette conscience aussi que nous appartenons à Jésus, mais nous appartenons aussi à ce corps spirituel, miraculeux, qu'est l'Église de Jésus ici-bas. Nous lui appartenons, nous faisons partie, nous sommes membres de son corps. Est-ce que je vous ai mis ça? Oui, fantastique. 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a un seul pain, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Le pain ne me parle pas seulement du corps de Jésus qui a été déchiré par mes péchés. Le pain qui est brisé, rompu en différents morceaux, me dit qu'il y a un seul corps et différents membres. Et qu'il y a un seul pain, mais que nous sommes tous membres les uns des autres. Les membres d'un même troupeau. Les pierres d'un même édifice spirituel. Nous sommes les membres d'un même corps spirituel qu'est l'Église, dont Jésus est la tête. Et nous confessons notre appartenance les uns aux autres. Nous sommes membres les uns des autres aussi, dans ce que Paul dit en Corinthiens 12, etc. Il y a tellement de textes. Et puis, il y a aussi une proclamation extraordinaire, nous l'avons lu. Chaque fois que tu prends le pain et le fruit de la vigne, mon bien-aimé, tu confesses ta foi non seulement dans qui est Jésus, dans ce qu'il a fait, dans la façon dont tu appartiens à un corps spirituel miraculeux, la façon aussi dont tu t'offres et tu te consacres tout à nouveau à lui, mais aussi tu annonces, et vaut mieux que tu y crois, sinon il y a un décalage entre ce que tu fais et ce qu'il y a dans ton cœur. Tu annonces, tu proclames le prochain retour de Jésus en gloire. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
la mort du Seigneur.
Amen. Oui, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Et il y a aussi cette dimension glorieuse dans le retour de Jésus. Voilà la signification un petit peu rapide, mais suffisante pour recentrer nos cœurs sur l'essentiel. Et puis, évidemment, dès que Jésus est mort et ressuscité, dès que l'Église est constituée, dès que les apôtres commencent à structurer l'Église, à partir de ce moment-là, toujours, c'est inévitable, il y a toujours des fausses doctrines. Il y a toujours eu des tentatives d'infiltration de fausses doctrines. Il y a toujours eu des dérives. Il y a toujours eu des ajouts. Il y a toujours eu des exagérations d'une façon ou d'une autre. Quelques dérives, deux essentiellement. J'ose espérer qu'elles ne nous concernent pas, mais il faut que vous en ayez conscience. La pire, enfin, toutes les dérives sont graves, mais la plus énorme, on va dire. La plus énorme s'appelle la transsubstantiation. Substance, la substance. Trans, le changement. La transsubstantiation, c'est le changement de substance. Ça, c'est une dérive, c'est même une perversion, une abomination. Au sujet de l'enseignement de Jésus, c'est une doctrine, pardon, j'ai rien contre personne, mais c'est une doctrine issue du catholicisme romain. C'est une doctrine catholique qui voudrait que, quand le prêtre prend l'hostie qui symbolise le pain, le corps de Jésus, quand il prend l'hostie du latin hostia, qui signifie sacrifice, c'est qu'au moment où il prend l'hostie et qu'il donne le fruit de ce qu'il y a, le fruit de la vigne dans la coupe, à ce moment-là, quand il le donne, ce pain et ce fruits, vins, ce que vous voulez, deviennent réellement, c'est pour ça que c'est une abomination, se transforment, deviennent réellement le corps et le sang de Jésus. C'est la transsubstantiation, c'est ce qu'ils appellent communément le miracle de la messe. Je n'ai rien contre personne, c'est une véritable perversion de l'enseignement de Jésus et des apôtres, c'est une abomination, parce que l'enseignement de Jésus à ce moment-là a été pris vraiment au pied de la lettre, non seulement au pied de la lettre, et en plus de façon incomplète. C'est vrai, Jésus a dit, « Ceci est mon corps ». Il faut bien comprendre qu'au moment où Jésus dit ça, il est en chair et en os devant eux. Ça peut pas être. Et c'est bien dit, il a pris du pain. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ça s'appelle une allégorie, c'est tout. Quand Jésus dit en Jean 6, c'est ce qui lui a fait perdre des disciples. Jean chapitre 6, le premier des « Je suis de Jésus, je suis le pain de vie », le discours sur le pain de vie va vraiment avoir pour conséquence un clash, un schisme. Les 12 disciples vont rester avec lui. « Seigneur, à qui d'autre irions-nous que toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais les 70 autres qui avaient été établis en Luc chapitre 10 ont regardé Jésus, ont dit « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Parce que Jésus avait dit de façon allégorique « Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. » Jésus dit, Jean 6, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. » Et là, certains se sont offusqués. Alors que Jésus avait clairement dit, la chair ne sert de rien. Ce que je vous enseigne, mes paroles, dit Jésus, sont esprit et vie. Esprit et vie. Mais certains, malheureusement, ayant tout pris au pied de la lettre, ont apporté cette doctrine démoniaque de la transsubstantiation, le changement de substance. On comprend bien, frères et sœurs, qu'il s'agit de deux simples éléments qui constituent des symboles pour rappeler une glorieuse réalité spirituelle, rien de plus. Et c'est mon âme en définitive en réalité, c'est mon âme qui se nourrit de lui par la foi. Mon âme est rassasiée de sa vie, de sa grâce, de son amour, de sa présence. Cette doctrine littérale, superstitieuse, occulte, idolâtre, est idolâtre parce qu'elle accorde autant de valeur aux éléments qu'à celui, le Dieu Tout-Puissant, qui est symbolisé par les deux éléments. C'est une perversion du sacrifice de Jésus. Je vous ai mis ici, ça devient un sacrifice perpétuel. Et il tombe sous le coup de Hébreux 6. Alors là, ce n'était pas intelligent, Steph. J'aurais dû vous le mettre. Pour ceux qui veulent noter, notez Hébreux 6:6. Il crucifie de nouveau, peut-être vous avez déjà lu ça dans l'Épître aux Hébreux, on se dit, mais à quoi ça fait référence? Ça fait référence à ce genre de doctrine. Il crucifie de nouveau le Fils de Dieu et le livre à nouveau à l'ignominie. Comment est-ce qu'on peut crucifier à nouveau le Fils de Dieu? Justement par des rituels superstitieux, occultes et idolâtres. Hébreux 6:6. Il crucifie de nouveau le Fils de Dieu et le livre de nouveau à l'ignominie, c'est-à-dire à l'infamie, à la disgrâce, au ridicule. C'est un sacrifice perpétuel qui amoindrit la valeur et la suffisance de Jésus. Qui, là je vous l'ai mis, est mort, les textes sont clairs, Jésus est mort une fois pour toutes. Et son œuvre est suffisante une fois pour toutes. Après sa résurrection, Jésus est remonté au ciel, il a été enlevé sous les yeux de ses disciples, et la Bible est claire, il s'est assis à la droite du Père. Ce qui n'est absolument pas ni une coïncidence, ni un hasard, ni un point de détail, c'est extrêmement important. Parce que dans toute l'histoire des souverains sacrificateurs, jusqu'à Jésus, jamais un souverain sacrificateur n'avait pu s'asseoir et se reposer de son œuvre. Il fallait recommencer. Chaque année, il fallait recommencer. Mais Jésus, lui, le souverain sacrificateur parfait, sacrifice agneau parfait, monte dans la gloire et il s'assoit. Il peut se reposer de son œuvre parce qu'elle est infaillible, elle est parfaite, elle est définitive. Et comme disent les Romains, Hébreux, Hébreux 7, Hébreux 9, Hébreux 10, vous avez toutes les références, vous vérifierez ici. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père et il est mort une fois pour toutes. On n'y revient pas. Amen. Ce qu'il a fait est parfait et ce qu'il a fait me suffit jusqu'à ce que la porte de la grâce un jour soit fermée. Mais ce n'est pas ce temps, merci Seigneur. Une autre doctrine, bien-aimée, fausse doctrine, qui est beaucoup plus pernicieuse, mais tout aussi dangereuse, parce qu'elle est aussi idolâtre,
c'est ce que l'on appelle la consubstantiation. Toujours substance. Consubstantiation, contenu dans la substance. Transsubstantiation, changement de substance. Consubstantiation, contenu dans la substance. Et là, ça commence à se rapprocher un petit peu plus de nous. J'espère que tout le monde est au clair là-dessus, mais on va quand même bien préciser. Parce que ça, ce n'est pas dans le catholicisme, ça c'est une doctrine qui affecte malheureusement certains milieux protestants. Où on pense qu'au moment où on va prendre ce pain et ce fruit de la vigne, le pain et le fruit de la vigne contiendraient, ils ne deviennent pas le corps et le sang de Jésus, mais en fait ces éléments contiendraient la présence de Jésus. Et malheureusement, cette doctrine qui est aussi pernicieuse a été adoptée dans plusieurs milieux protestants. Elle a cours encore aujourd'hui, bien sûr. Et là aussi, c'est pernicieux parce qu'elle détourne les gens de l'essentiel et elles vont quand même les amener à un rituel superstitieux et idolâtre. Ça va, vous me comprenez? Le Seigneur n'est pas présent dans le pain et ni le vin blanc, ni le vin rosé, ni le vin rouge, ni le jus de raisin. Le Seigneur n'est pas présent dans les éléments. Il n'est pas présent dedans. Le Seigneur est présent par la nouvelle naissance, dans le cœur des disciples. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6. Ignorez-vous, ne vous souvenez-vous pas, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes son temple. Vous avez, vous, sa présence. 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19. Voilà une autre fausse doctrine. Le pain et le fruit de la vigne symbolisent une réalité spirituelle. Spirituelle. Et c'est cette réalité spirituelle qui nous fait vivre et croire à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, que le pain et le fruit de la vigne pourraient être plus que des symboles. Ça amène les gens à quitter le terrain de la foi et à rentrer sur le terrain de l'idolâtrie, de la superstition, etc., etc. J'espère que jusque-là, tout le monde dit dans son cœur, on n'est absolument pas concerné par ça. Mais ce qu'il faut comprendre, bien aimé, c'est que l'homme, l'être humain, c'est ainsi depuis qu'il a été contaminé par l'orgueil, par le péché, etc. L'homme est religieux par nature, religieux relié à, il cherche à se relier à. Consciemment ou inconsciemment, il cherche à se relier à. Et nous avons les uns et les autres, et c'est pour ça que la foi n'est pas toujours si évidente, nous avons aussi nos besoins, d'une façon ou d'une autre, de nous relier à Dieu. Et c'est là qu'arrivent, bien aimés, nos rites, nos habitudes, qui ne sont pas forcément mauvaises, parce que ce que je vous ai dit, il y en a, mais des rites, des habitudes, des façons de faire, où on est dans une espèce de train-train, où on fait les choses, c'est pas que les choses qu'on fait sont mauvaises, mais c'est qu'à force de faire, on finit par se relier à Dieu, on finit par accorder plus d'importance à des formes qu'à du fond, et on a besoin aussi de chercher d'une façon ou d'une autre à se relier à Dieu par des choses... Moi je suis désolé, hein, j'ai rien contre personne, ça tombe bien, je vous connais pas tous. Tu sais, les chrétiens qui ont une croix sur le rétroviseur, ça me fout mal à l'aise, mais mal à l'aise. Les gens qui ont une croix autour du cou, ça me met mal à l'aise, mais hyper mal à l'aise, quoi. La croix, elle est dans mon cœur. Oh purée, je viens de perdre 10 points, là. Tant pis. Alors évidemment, nous, on n'a pas ces grosses dérives doctrinales. Mais il faut qu'on soit méfiants, frères et sœurs. Méfiants de notre propre cœur. Parce que le risque serait de pouvoir s'attacher au rituel, à une habitude, à une tradition, à une forme. Et puis, comme on commence à s'attacher un peu plus au visible, on commence à être un petit peu plus distant ou un petit peu plus léger, inconscient, avec ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'invisible. Et parfois, on va aussi au-delà des textes bibliques. Et nous avons dans nos assemblées des institutions qui... Prenez les textes, je vous ai dit un dimanche dernier, faites comme les chrétiens de Béret. S'il vous plaît, ne me faites pas confiance. Ne me faites jamais confiance, ce n'est pas un problème. Vous faites comme les chrétiens de Béret, acte 17, vous recevez la parole avec joie, mais vous êtes chrétien, pas crétin. Chaque jour, comme les chrétiens de Béret, vous examinez chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact.
pas de problème. C'est normal, totalement normal. Et nous avons des habitudes. Qui un jour a décidé, ça remonte tellement loin, j'ai rien contre, mais personne ne peut le dire, qu'il y aurait un apron en dentelle posé, personne ne peut s'en souvenir. Et pourtant, tous les dimanches, il y a un apron en dentelle. Dans toutes les églises, ou presque. J'ai vu des églises où il n'y en a plus. C'est pas un crime, c'est pas un péché. À quel moment le Seigneur nous a-t-il dit, avant de vous recentrer sur moi par le pain et le fruit de la vigne, vous allez vous recentrer sur moi par un texte de lecture biblique? J'ai rien contre, hein. Tous les frères qui passent ont lu des textes d'une pertinence. Très bien. Ce qui marche, il faut le garder, il faut pas l'enlever, hein. Vous avez compris, hein. C'est bien. Mais, objectivement parlant, Paul n'a pas lu ni l'évangile ni la Torah avant d'enseigner la scène. Jésus n'a pas lu la Torah. Il n'a pas fait une lecture pour recentrer les cœurs des croyants sur les symboles qui allaient recentrer le cœur des croyants. Mais pourtant, on a des us et coutumes, on a des habitudes. Parfois, elles sont absolument pas gênantes, hein. Je dis le texte biblique parce qu'il n'y a aucun souci. J'ai entendu que des choses intelligentes ici. C'est super. Par contre, je vous dis honnêtement, il y a d'autres églises où on avait dû discuter un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, on s'était dit, ouais, non, ben, on va arrêter de lire la Bible avant parce que ça casse la louange, hein, vraiment. Hein. On a des habitudes, on a un vocabulaire aussi inconscient qui est très ancré. La scène. La scène, c'est le mot koinos en grec ou koina en latin, qui ne figure absolument pas dans la Bible. C'est un mot qui est arrivé après pour désigner ce que Jésus avait fait. Mais Paul n'a pas parlé de la scène. Paul a dit la table du Seigneur, le repas du Seigneur. Il y a deux expressions, le repas du Seigneur ou la table du Seigneur. Puis ensuite, je l'ai dit, hein, vous inquiétez pas, hein, ça va, hein, je vais perdre encore 10 points, c'est pas grave. On l'a tous dit, moi aussi. La Sainte Seine. De où la Seine est-elle sainte? Et vous voyez, très bien aimé, inconsciemment, nous avons des us et coutumes, nous avons un patois de Canaan qui est très ancré, qui est très enraciné, mais le drap n'est pas saint, les plateaux ne sont pas saints, les gobelets ne sont pas saints, le pain, il vient du boulanger d'à côté, j'espère qu'il s'est bien lavé les mains avant de nous le filer. Ce qu'il y a dans les gobelets, ça vient de toute façon de chez Intermarché, Auchan ou Carrefour. Non, je ne prie pas pour les saints éléments, parce qu'on a souvent entendu, « Ah Seigneur, la sainte scène, Seigneur, les saints éléments, nous te remettons ces éléments. » Moi, je ne lui remets rien du tout, je ne vais pas remettre au Seigneur le pain qui a été fabriqué à côté. Et vous voyez cette façon qu'on a d'entretenir une espèce de... Pourquoi? Parce qu'intérieurement, on a besoin de sacraliser les choses. C'est notre cœur, c'est notre humanité qui est comme ça. Et dans la Bible, j'ai Dieu le Père qui est saint. Jésus qui est le saint et le juste. On a le Saint-Esprit. On a les saints anges, les saints prophètes. Oui, on a les saints, nous. Nous qui sommes saints. Ah oui, amen. Qui offrons à Dieu un culte raisonnable, logique, un sacrifice. Nos vies offertes, c'est le culte saint, raisonnable. Mais il n'y a pas de sainte scène. La scène n'est pas sainte. Et il n'y a pas de saints éléments. Je crois que, je sais pas, les frères qui vont venir après, ils vont se dire, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on dit. Un autre point important, bien-aimé. Ça aussi, on l'a tous fait, on y a tous pensé. On a tous eu peur à un moment ou à un autre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais souvent c'est arrivé. Dans des églises, parce qu'il y a eu un petit couac au niveau de la distribution, ça arrive. J'ai vu des fois des bien-aimés, ils avaient eu le vin avant le pain. Et là, j'ai vu les bien-aimés garder le vin, attendre. Alors, Seigneur, je te loue, je te bénis. Puis en même temps, on se dit, purée, il est où ce panier? C'est pas possible. Oh les frères, qu'est-ce qu'ils font ce matin? Et, le pain. Et après, le vin. Un jour, une sœur dans une église, pas ici, vient me voir. Puis elle me dit, Stéphane, ce matin, je n'ai pas pris la sainte scène. Je dis, ah bon, sœur, pourquoi? Elle me dit, les frères, ils sont loupés et ils m'ont distribué le vin et moi, j'ai pas eu le pain. Ou il est arrivé après, je sais plus. Elle me dit, moi, dans ces conditions, je ne prends pas la scène. Je dis, mais pourquoi, ma sœur? Elle me dit, parce que c'est diabolique. Église évangélique de Pentecôte, hein, du 21e siècle. Elle me dit, c'est diabolique. On ne peut pas prendre le vin après le pain. Jésus a pris le pain et ensuite, il a pris le vin.
comment j'ai dû expliquer à cette brave sœur qui aimait le Seigneur de tout son cœur, lui dire le littéralisme, ça tue. Mais bien aimé, nous sommes dans la foi, j'espère. Nous sommes dans la foi. Nous ne sommes pas dans la superstition. Le littéralisme, ça tue. Littéralisme ou littéralité, prendre tout au pied de la lettre, ça tue. À vouloir être trop biblique, à vouloir aller dans des exigences littérales, surtout qu'en plus, un jour peut-être je vous expliquerai comment on fonctionne dans les prédications, l'exégèse, l'herméneutique, l'homilétique, comment on sort jamais un texte de son contexte. En plus, vous savez que la Bible, ce qu'on a, ce ne sont que des traductions, hein. Faut faire gaffe quand même, hein, avant d'être sûr d'avoir compris quelque chose. Et vous savez au fait que la Bible, que vous lisez chaque jour, j'espère, vous savez qu'on n'a pas les originaux, hein. Oh là, il y en a deux qu'on fait, il y en a d'autres qui font. Soyons prudents avec la parole de Dieu. C'est pas parce qu'elle est dangereuse, elle, c'est parce que moi, je me méfie de mes raisonnements et de mes réactions. Alors vous comprenez bien que on a des habitudes, on peut avoir une sacralisation inconsciente, mais Paul est clair, Jésus est clair, il y a une table, il y a le repas du Seigneur, et c'est tout, ce sont des symboles, rien de plus que des symboles. Je ne suis pas attaché au rituel, je ne suis pas attaché à la forme, je suis attaché au principe. Et la fréquence de la scène, pardon, du repas du Seigneur, il faut le faire quand et combien de fois? Chaque église s'organise. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 11, 26, qu'on a lu, dit « Toutes les fois que... » Il ne m'a pas dit de le faire à chaque fois qu'on se rencontre, il n'a pas dit de le faire chaque dimanche. Alors si on le fait chaque dimanche, c'est pratique. Pourquoi on le fait? C'est là qu'il y a le plus grand nombre de l'église. Mais pourquoi on ne fait pas la scène le mardi aussi? Toutes les fois que vous, quand vous vous assemblez, dit Paul aux Corinthiens, quand vous vous rassemblez, il y a des églises ici, chaque église s'organise, des églises qui le font chaque dimanche, certaines un dimanche sur deux, d'autres un dimanche par mois, certains le font dans la semaine. Ce qui compte, ce n'est pas le rythme, ce n'est pas la fréquence. Ce qui compte, c'est le principe spirituel, vous avez compris. Fréquence de la scène, chaque église s'organise. Allez, encore deux points, j'essaye d'être rapide, c'est un petit peu plus long ce matin, mais il y a de la théologie évidemment. Deux choses essentielles. La question du repas du Seigneur, j'ai mis scène, vous voyez, j'ai mis aussi toutes les appellations, histoire que vous compreniez qu'il n'y a pas de problème avec le nom. C'est le principe qui compte. Qui peut prendre le repas du Seigneur? Puis ensuite, on va réfléchir deux secondes. À quel moment un disciple doit-il s'abstenir du repas du Seigneur? Parce qu'il y a des questions profondes que parfois nous ne nous posons pas ou que nous ne nous posons plus parce qu'on était trop attaché à des formes. On note bien, pour répondre à cette question, qui peut s'approcher de la table du Seigneur? Il faut noter que Jésus l'a institué, je vous avais dit de faire attention, pour ses disciples. Ses disciples sont autour de lui et il distribue le pain et le fruit de la vigne à des disciples. Et dans l'enseignement des apôtres, dans l'église primitive, la doctrine, la saine doctrine, parce qu'il y a une saine doctrine, elle est claire, elle est limpide. Un disciple, c'est quelqu'un qui, pour devenir disciple de Christ, s'est repenti de ses péchés. Bientôt, on parlera de la repentance. Il s'est repenti. Il a pris conscience de son péché, de sa vie de péché, de sa nature de péché. Il a abandonné son péché. Il en a demandé pardon. Il a fait demi-tour. Il s'est converti. Il s'est tourné vers Jésus. Il l'a reçu comme sauveur et comme Seigneur. Il est entré. Suite à la repentance, il entre dans la vie de la foi, il entre dans une vie d'obéissance à Christ, et même si c'est pas, personne n'est parfait, il n'est pas parfait, moi, je, vous, nous ne sommes pas parfaits, nous avons une vie dans laquelle nous marchons, nous nous comportons en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça que nous disons toujours, et ça, c'est pas un rituel, c'est normal, si vous êtes baptisé, baptizo en grec, immergé, avec toute la signification du baptême, tous ces principes exprimés par le baptême, repentance, foi, obéissance, vie conforme à Christ, etc. Si vous avez concrétisé cela par le baptême, si vous êtes baptisé par immersion et que vous êtes en règle, à ce moment-là, approchez-vous de la table et participez avec vos frères et sœurs au repas du Seigneur. N'encouragez jamais quelqu'un, j'ai vu ça plus d'une fois dans les églises, par sentimentalisme. Oh, mais t'aimes le Seigneur aussi, toi, hein? Mais oui. Mais de toute façon, t'es un petit peu pas bien ce matin. Ben, lève-toi avec moi. T'aimes le Seigneur, hein? T'aimes Jésus. Voilà. T'as la foi? Oui, on n'a pas défini, mais c'est pas grave. Si tu dis que tu l'as, c'est que ça doit être bon. Ben, vas-y, lève-toi avec moi. N'encouragez jamais quelqu'un qui n'a pas concrétisé la repentance, la foi, l'obéissance, l'engagement de cœur par le baptême à prendre la scène. Parce que là encore, bien aimé, on amoindrit la scène et on amoindrit aussi le baptême. Et puis de plus, acte 2, 41, les disciples ont persévéré dans la fraction du pain après le baptême. La table du Seigneur, elle est pour des disciples. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas encore expérimenté repentance, foi, obéissance, salut, vie nouvelle, nouvelle naissance, quelqu'un qui n'aurait pas expérimenté ça, le but pour lui et la bénédiction pour lui, c'est pas un bout de pain et un petit morceau de je sais pas quoi. La bénédiction pour lui, c'est de vivre ces réalités, d'offrir, de donner sa vie à Christ. Et c'est ça qui va être pour lui une véritable bénédiction. Et le but, c'est pas de participer à la scène. La scène n'est pas un but, la scène est un moyen de focaliser à nouveau ma pensée. Mais le but, c'est Christ. Et si vous n'êtes pas encore à Christ, ben le but, c'est pas que vous preniez la scène. Le but, c'est que vous arriviez à Christ. Parce que c'est ça qui va être extraordinaire et qui va changer votre vie. Amen. Sinon, c'est de la religion. Et puis, il faut en parler. Ça arrive. On s'est tous posé la question à un moment. Des dizaines de fois dans les églises, la question a été posée. À quel moment un disciple non baptisé... un disciple, il est baptisé. À quel moment un disciple baptisé, pardon, je termine avec ce point, doit-il s'abstenir du repas du Seigneur? C'est simple. Il faut comprendre deux choses. Même disciple de Jésus, l'apôtre Jacques dit, Jacques 3, nous bronchons tous, nous péchons tous. Il nous arrive à tous de chuter, de tomber, de commettre un péché. Si l'apôtre Jean, vous relisez la première épître de Jean, Jean dit clairement dans son épître, si quelqu'un, il parle à des disciples, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, si nous lui confessons nos péchés, on parle à des disciples, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et à partir du moment où je sais dans mon cœur, il y a quelque chose cette semaine, je vais demander pardon au Seigneur, mais je vais pouvoir m'approcher de la table. Parce qu'il faut faire la différence entre un acte isolé, quelqu'un qui a péché, et quelqu'un qui vit dans le péché. Un disciple qui entretiendrait une situation de désobéissance, qui entretiendrait une situation de péché. Il y a une différence entre quelqu'un qui a une robe blanche, purifié par Jésus, justifié, qui marche, et à un moment, il va faire un faux pas, il va se tacher. Mais là, on ne change pas toute la robe. Là, on a l'apôtre Jean qui nous dit, si quelqu'un a péché, il a un avocat auprès du Père, et le Seigneur va purifier cette robe blanche qu'il m'a donnée. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui a péché, qui salit sa robe blanche, et quelqu'un qui, excusez-moi, est parti se vautrer à nouveau dans la boue. Là, c'est carrément autre chose. Et c'est dans ce genre de cas, c'est là qu'il faut faire la différence, bien-aimé. C'est la différence entre quelqu'un qui a une chute, quelqu'un qui a menti. « Ah Seigneur, cette semaine, j'étais au travail, le patron, il m'a mis une pression au téléphone. Il n'est pas là. J'ai menti, le patron était là. J'ai menti. » Ben, je vais demander pardon au Seigneur parce que j'ai un mensonge. Ça ne fait pas de moi un menteur viscéral. Je ne vis pas dans une situation de mensonge. Vous comprenez? Et quand il y a une situation, c'est pas parce que dans une semaine, je vais avoir peut-être cette semaine une mauvaise pensée, une mauvaise parole, ou je vais avoir peut-être un propos dur. Ah, mon caractère n'est pas encore assez sanctifié. Il y a quelqu'un qui va réagir un peu brutalement. Ouais, dis donc, Steph, maintenant tu commences à me saouler, ça suffit. C'est bon, t'arrêtes maintenant, c'est bien. Puis on se dit, mais tu vas pas me prendre la tête, écoute, franchement, t'arrêtes maintenant, ça suffit, ça fait 3 fois que tu m'en parles, c'est terminé maintenant. Mais, allez, avant la fin de la semaine, on va tomber dans les bras de l'un de l'autre, puis on va dire, Seigneur, sanctifie encore nos cœurs. Il y a une différence entre quelqu'un qui a eu une querelle et quelqu'un qui vit dans la dispute, dans la querelle, dans des situations non réglées, où je ne suis même plus en mesure
tellement c'est profond dans mon cœur, je ne peux plus dire bonjour à un tel, je ne peux plus dire bonjour à une telle. Il y a des situations. Et là, dans ce genre de situation, c'est là qu'il faut absolument être sage. Ce n'est pas un truc que je peux régler en disant « Seigneur, sincèrement, pardon ». Non, non, c'est quelque chose qui mérite, que je dois, qui doit être réglé, absolument réglé. Et on parle de situation, on parle de pratique de péché. Et c'est là que ça devient très, très compliqué et que ça devient très embêtant pour le Seigneur. Proclamer la victoire totale et définitive de Jésus sur le péché, en proclamant le prix qu'il a payé, et se tenir sciemment dans une situation de péché sans la régler, là ça devient problématique. Proclamer l'unité du corps, mon appartenance, mon unité spirituelle avec mes bien-aimés, s'il y en a un, une, etc. Là on est bien-aimés, vous comprenez, dans des situations. Ce ne sont plus des actes isolés, ce sont des situations à régler. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, examinez-vous. Bon, vous ne faites pas une introspection maladive. Hein. Si vous avez le cœur sincère devant Dieu, l'Esprit de Dieu vous éclairera et vous dira, tu te souviens que, mais si tu ne te souviens pas, du moment que tu es sincère, le Seigneur il fera monter un truc dans ton cœur. Hein. Par amour. Il te dira, ton frère là, ta sœur là, ça c'est pas réglé. Matthieu chapitre 5, laisse donc là ton offrande, parce que c'est l'offrande de ma vie aussi, hein, la scène. Laisse donc là ton offrande, va régler ce que tu as à régler, puis ensuite tu reviens et tu présentes ton offrande. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, examinons-nous les uns les autres, examinez-vous, pas les uns les autres, pardon, examinez-vous vous-même, chacun pour sa part, pardon, examinez-vous vous-même. Et c'est là que les Corinthiens, qui ne voulaient pas entendre raison, qui ne voulaient pas se repentir, parce qu'ils étaient... Corinthe, c'est un cas spécifique. Hein. Ils sont allés très loin dans le laxisme avec le péché, très loin dans l'esprit de parti, très loin dans la dispute, très loin dans la division. C'est vraiment un cas particulier. Très loin dans l'insoumission, très loin dans la querelle, très loin dans l'esprit de parti, très loin dans l'orgueil, etc. Et comme il y avait vraiment une église qui arrivait à un endurcissement extrême, le Seigneur a dû, à ce moment-là, appesantir sa main de façon extrême, et c'est dans ce contexte, et dans ce contexte uniquement, que l'apôtre Paul a discerné. Il a dit, vous voyez, c'est pour ces raisons-là qu'il y a au milieu de vous beaucoup de malades et qu'un grand nombre n'ont pas été guéris. Par contre, vous n'allez pas voir la première personne que vous connaissez qui est malade en lui disant, on prend les choses dans leur contexte. Voilà pour l'essentiel, mais béni soit Dieu, si mon cœur me reprend, si j'ai quelque chose... Si quelqu'un a péché, qu'il confesse. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà bien